Alors, donc, nous avons déjà eu l'occasion d'entendre plusieurs communications mettant à jour des expériences coopératives pour faire face aux enjeux environnementaux. Et j'aimerais, pour ma part, apporter ma contribution à la réflexion collective en mettant en lumière des pratiques de coopération au sein du monde agricole. Donc, c'est un monde qui est sur lequel sont revenues plusieurs communications, et je m'en réjouis. On n'a pas sélectionné exprès, mais voilà. C'est un monde qui connaît des mutations rapides et profondes, susceptibles évidemment d'être appréhendées à travers une multitude de prismes disciplinaires et bien sûr interdisciplinaires. Et on aura l'occasion de le voir entre celle d'hier avec Santiago et Adria et également celle de demain. Donc c'est plus particulièrement de pratiques coopératives entre petits et moyens agriculteurs de la région PACA dont je vais parler aujourd'hui. C'est en effet à ces professionnels que je me suis plus particulièrement intéressée dans le cadre de ma thèse de sociologie, encadrée, j'en profite pour le dire, par Marie Jacquet et Chantal Asp ici présentes. Dans ma thèse, je cherche effectivement à comprendre comment cette catégorie d'agriculteurs, donc qui ne dépassent pas le million d'euros de chiffre d'affaires annuel sur leur exploitation, c'est déjà une première catégorisation, parviennent à s'adapter aux transformations environnementales de l'agriculture et du coup, comment ils y participent. Donc pour mener à bien ce travail d'élucidation, j'ai rencontré une cinquantaine d'agriculteurs de la région en cherchant à diversifier le plus possible les profils rencontrés. J'ai donc mené des entretiens semi-directifs avec des agriculteurs de différentes filières de production, aussi bien en culture qu'en élevage, avec des modes de production donc raisonnés, biologiques, intensifs, extensifs, ainsi que des modes de commercialisation diversifiés, circuits courts, circuits longs, marchés de niche, labellisation, etc. Et j'ai aussi diversifié les zones géographiques des exploitations, haute et moyenne montagne, zones de plaine et littoral méditerranéen. Oui, on a tout ça en région PACA. Alors derrière cette grande diversité de situations, j'ai pu déceler de très nombreux points communs chez ces travailleurs. Il s'agit en effet de travailleurs indépendants, donc propriétaires de leurs moyens de production. Fortement attachés à leur autonomie professionnelle, ils prennent et assument l'intégralité des décisions et risques associés concernant leur exploitation. Et pour ce faire, ils développent des stratégies gestionnaires et commerciales. Par ailleurs, ils disposent de peu de main-d'œuvre salariée. Donc les enquêtés rencontrés travaillent généralement en famille sur leur exploitation ou avec l'aide ponctuelle de saisonniers pour les pics d'activité. Et certains, parmi les mieux dotés, peuvent avoir un ou deux salariés permanents. Donc en plus d'être des chefs d'entreprise, ce sont des travailleurs de la terre qui travaillent directement la terre et qui maîtrisent à ce titre de nombreux aspects techniques et qui sont en contact direct avec la nature qu'ils transforment au quotidien. Donc ces conditions de travail et de vie, l'entremêlement entre vie professionnelle et vie privée, la confrontation quotidienne aux risques et aléas naturels, mais aussi à ceux liés à la fluctuation des marchés, la grande diversité des tâches productives, gestionnaires, commerciales, administratives qu'ils sont amenés à réaliser, ou encore l'autonomie relative dont ils disposent dans la conduite de leur travail, façonnent ce groupe d'individus à bien des égards singuliers au sein de la société française. Donc c'est une unité de conditions qui s'étend, selon moi, au-delà d'une simple unité professionnelle et qui peut être appréhendée par une lecture de classe, d'où le titre de ma communication, d'ailleurs voilà, j'avais pas passé la diapo. Les petits et moyens agriculteurs ont en effet des intérêts de classe communs, qui sont d'ailleurs parfois similaires, mais le plus souvent antagonistes à ceux des gros exploitants agricoles, de même qu'ils développent une vision du monde et notamment des représentations de la nature et des moyens de la protéger qui leur sont propres. Ils constituent en effet une fraction de classe de la petite bourgeoisie traditionnelle, alors on pourra se mettre d'accord sur les catégorisations ou pas, mais et c'est dans cette optique, pour conclure cette petite présentation de qui je parle, que j'analyse dans ma thèse les transformations environnementales dont ils sont les porteurs. Donc je montre notamment que les petits et moyens agriculteurs développent un rapport à la nature qui leur est propre, fait de proximité et de pragmatisme, débouchant sur une conception de la protection de l'environnement qui s'oppose régulièrement aux conceptions portées par d'autres groupes sociaux, notamment celles développées par des militants écologistes organisés en associations de protection de l'environnement, mais aussi plus généralement à celles développées par les nouveaux habitants des zones périurbaines et rurales, population à laquelle les agriculteurs rencontrés sont confrontés quotidiennement dans leur travail. L'exemple de la problématique de la prédation du loup, qui est omniprésente dans notre région PACA, est à ce titre très éclairante. Il y a d'un côté les éleveurs d'ovins, caprins ou encore bovins, qui défendent un modèle d'élevage extensif fondé sur le pastoralisme, permettant l'entretien de très larges espaces de haute et moyenne montagne, hein, ce qui permet aussi de réduire un certain nombre de risques naturels, incendies, avalanches, etc. Et de l'autre, les défenseurs du loup, symbole par excellence de l'animal sauvage et indompté, militants ou sympathisants, souvent favorables à un, je cite, « ré-ensauvagement de l'arc méditerranéen ». Ce conflit particulièrement vif dans les départements montagneux de la région nous révèle du côté des éleveurs la volonté de faire partie de cette nature qu'ils transforment. Ils ne conçoivent pas la nature comme une nature sauvage à préserver de toute intervention humaine et ils font des distinctions entre les éléments naturels favorables à cette présence humaine, donc espèces de faune et de flore présentes dans les forêts et prairies qu'ils pâturent, et des éléments naturels qu'ils considèrent comme nocifs tels que le loup, grand prédateur, attaquant les troupeaux et d'autres espèces animales sauvages. Du côté des défenseurs du loup, on observe à l'inverse une conception dualiste des rapports en nature. L'interventionnisme humain est perçu comme néfaste à la nature et les espèces sauvages emblématiques, hein, pas toutes, sont considérées comme intrinsèquement bonnes et à protéger, parce que sauvages. Ces deux conceptions s'opposent ainsi par leur caractère dualiste ou non dualiste, mais aussi par leur caractère plus ou moins pragmatique ou idéaliste. Du côté des éleveurs, une nature vécue au quotidien, qu'ils considèrent comme parfois dangereuse si elle n'est pas maîtrisée, inondations, glissements de terrain, feux de forêt, etc. De l'autre, une nature largement idéalisée, avec laquelle les individus qui disent vouloir la défendre ne se confrontent généralement pas, ou en tout cas pas dans leur quotidien professionnel. La nuance est importante. Cette opposition, qui s'avère en réalité une opposition de classe et même de fraction de classe, se retrouve aussi dans des conflits opposant les petits et moyens agriculteurs en zone de plaine ainsi que sur le littoral méditerranéen avec les habitants de ces espaces. Je peux citer dans ces zones un exemple éclairant et fréquemment entendu en entretien, la dénonciation chez beaucoup d'habitants consommateurs vivant à proximité d'exploitations agricoles de l'utilisation de serres en maraîchage. Ces derniers dénoncent une artificialisation abusive de l'agriculture alors même que de très nombreux travaux de recherche montre que la serre constitue un outil efficace pour maîtriser les éléments naturels et ainsi limiter le recours aux intrants chimiques. Il n'y a donc pas une façon de concevoir la protection de l'environnement, mais des conceptions de la nature et des moyens légitimes à déployer pour la protéger, portée donc par ces groupes sociaux, dont la position au sein de la société, et notamment dans les rapports productifs, conduisent à défendre des projets souvent contraires. Les pouvoirs publics, eux-mêmes partie prenante de ces débats, tendent à légitimer, via la voie réglementaire, certaines conceptions au détriment d'autres. Donc ces conceptions idéologiques sur la façon dont nous devons agir vis-à-vis de la nature dans un contexte de crise écologique sont induites par des intérêts de classe parfois complémentaires et communs, parfois contradictoires, voire antagonistes. Et l'évolution environnementale de l'agriculture n'échappe évidemment pas à cette conflictualité du social. Ainsi, si un consensus se fait jour dans la société française sur la nécessité de réduire les externalités environnementales négatives de la production agricole, il semblerait que la question de la répartition des efforts adaptatifs à fournir pour refonder notre agriculture reste largement invisibilisée. En effet, ce sont essentiellement aux petits et moyens agriculteurs de s'adapter pour renouveler leurs outils productifs et leurs réseaux commerciaux en vue de proposer des productions plus qualitatives, aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue sanitaire. Cette injonction adaptative, portée par nos pouvoirs publics via les transformations réglementaires, notamment les interdictions d'un certain nombre de produits phytosanitaires, est certes accompagnée de la mise en place de dispositifs agri-environnementaux, mais de nombreux travaux de recherche et mon propre travail d'enquête permettent de révéler que l'essentiel des transformations environnementales en agriculture, en tout cas pour la région PACA, s'opère en dehors de ces dispositifs, souvent mal conçus pour des réalités locales singulières, et de toutes les façons, ces dispositifs étant budgétairement largement insuffisants pour sécuriser véritablement les transitions des exploitations agricoles. Aussi, c'est à ces agriculteurs travaillant en moyenne 70 heures par semaine avec une semaine de vacances ou moins par an, du travail 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, c'est donc là les petites moyennes que j'ai faites sur ma population enquêtée, pour une rémunération moyenne chez ces enquêtés s'approchant du SMIC, donc si on fait les calculs bien inférieurs au SMIC horaire, à qui l'on demande collectivement de fournir l'essentiel des efforts adaptatifs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les petits et moyens agriculteurs que j'ai rencontrés attachent énormément de valeur à leur autonomie professionnelle, notamment dans leurs relations avec les pouvoirs publics, et ont largement intériorisé la logique globale de responsabilité écologique, unilatérale. C'est en entrepreneurs qu'ils recherchent des solutions pour transformer la gestion de leur exploitation tout en assurant sa viabilité. Ainsi, la hausse des injonctions environnementales adressées à l'agriculture, si elle peut leur causer un certain nombre de difficultés pour se mettre aux normes, est également perçue comme source d'opportunités. La plus grande sensibilité des consommateurs solvables aux enjeux environnementaux et se montrant intéressés par une production agricole plus qualitative et relocalisée constitue effectivement une opportunité pour ces agriculteurs de développer des modes de commercialisation plus rémunérateurs. Donc pour comprendre ces enjeux, il faut comprendre comment est structuré le monde agricole. La modernisation agricole qui s'est opérée à marche forcée, des années d'après-guerre au milieu des années 70, a intégré pleinement l'agriculture au mode de production capitaliste, quand jusque-là, l'agriculture était essentiellement une agriculture de polyculture-élevage tournée vers l'autosubsistance du groupe domestique. La société paysanne désormais disparue, l'agriculture est progressivement encadrée parce que les sociologues ruraux marxistes analysant le processus de modernisation ont appelé le complexe agro-industriel. Ce concept désigne l'ensemble des acteurs, en amont comme en aval de la production agricole, fournisseurs d'intrants et de matériel agricole, systèmes bancaires et assurantiels, technico-commerciaux, etc. pour l'amont, mais aussi pour l'aval, grossistes, industrie agroalimentaire, grande distribution, etc. Donc si cette structuration a permis des bonds de productivité fulgurants en plusieurs décennies, mais aussi de nourrir une population en croissance constante concentrée dans les centres urbains, le tout à des coûts relativement bas, les petits et moyens agriculteurs ont vu la plus-value de leur travail largement ponctionnée par ce complexe agro-industriel. Si bien qu'en plusieurs décennies, un grand nombre d'entre eux n'ont pas réussi à subsister et ont fait faillite. Dans ce processus ultra-sélectif, seuls les plus solides sont restés, et l'on comprend mieux pourquoi les petits et moyens agriculteurs que j'ai rencontrés voient les efforts adaptatifs désormais environnementaux comme constitutifs de leurs conditions. Un certain nombre de leurs stratégies adaptatives consistent donc à tenter de s'autonomiser vis-à-vis du complexe agro-industriel en amont, en réduisant notamment les investissements productifs, comme en aval de la production, en réduisant le nombre d'intermédiaires ou encore en labellisant leur production. Or, j'ai pu constater le caractère collectif d'un nombre croissant de ces stratégies adaptatives. C'est effectivement en étant de plus en plus conscient de leur interdépendance et des impasses de la logique de concurrence généralisée imposée par le mode de production capitaliste que ces petits indépendants cherchent à s'autonomiser des injonctions du complexe agro-industriel et qu'ils participent ainsi aux transformations environnementales de l'agriculture. Donc, je passe à mes exemples quand même. Donc c'est donc quelques-unes de ces pratiques coopératives qui facilitent l'adaptation de ce groupe aux enjeux environnementaux que je vais vous présenter maintenant. Donc la première série de pratiques coopératives que j'ai rencontrées systématiquement lors de mon enquête de terrain porte sur l'échange d'informations. En effet, à la question posée de leurs sources d'informations pour modifier leurs pratiques, l'intégralité des agriculteurs rencontrés ont répondu que leur première source d'informations était l'échange entre pairs. Il faut comprendre que les informations, aussi bien techniques que gestionnaires, commerciales ou administratives, sont des ressources premières pour ces professionnels qui gèrent de façon autonome leur exploitation dans un contexte en évolution constante. Ainsi, accéder à ces informations s'avère une condition indispensable pour se maintenir en activité. Les petits et moyens agriculteurs échangent donc quotidiennement sur leurs choix variétaux, sur les moyens qu'ils ont déployés pour protéger leur culture face à tel ou tel ravageur, sur les conditions et prix d'achat du matériau, sur les conditions et prix de vente auxquels ils livrent leurs acheteurs, mais encore de nombreux échanges. Notons que ces échanges informationnels sont plus nombreux entre agriculteurs d'une même filière de production et qu'ils peuvent s'opérer dans le cadre de groupes d'entraide formalisés tels que les GIE, groupements d'intérêt économique et écologique, ou encore au sein des organisations professionnelles agricoles, comme les chambres d'agriculture ou les syndicats notamment. Mais le plus souvent, c'est lors d'échanges informels entre voisins, donc des échanges fortement localisés, que les agriculteurs s'informent, se conseillent, se rassurent sur les choix à opérer sur leur exploitation. Si cette pratique n'est pas nouvelle et qu'elle a été encouragée, elle est encore par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles agricoles, la plupart de mes enquêtés ont souligné la libéralisation et la multiplication de ces échanges depuis une décennie, notamment à l'occasion des transformations environnementales impactant l'agriculture. De très nombreux entretiens relatent ainsi que la culture paysanne du secret, donc garder jalousement ses secrets et recettes de succès, cacher les bonnes combines à son voisin, est largement en recul et que les nouvelles générations d'agriculteurs ont de plus en plus à cœur de partager leur savoir et savoir-faire. Il semblerait ainsi que les agriculteurs d'aujourd'hui mettent davantage en question la logique concurrentielle généralisée du mode de production capitaliste, reformulation moderne de l'individualisme agraire, car ils ont saisi qu'elle desservait aussi bien leur intérêt individuel que collectif. J'ai pu d'ailleurs constater, lors de mon enquête de terrain, que les agriculteurs les plus isolés de leurs pairs sont généralement aussi ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés économiques. Notons d'ailleurs à ce propos que cet isolement n'est pas toujours la traduction de l'individualisme de l'exploitant, mais peut s'expliquer aussi par l'effondrement d'une filière dans une zone géographique donnée, comme c'est le cas de la filière horticole autour de Nice. Je passe sur l'exemple parce que je suis un peu juste au niveau du temps. Donc la deuxième série de pratiques coopératives que je voudrais vous présenter est d'ordre économique. En effet, comme je l'ai évoqué précédemment, les petits et moyens agriculteurs exploités par les acteurs du complexe agro-industriel via le jeu de relations commerciales inégales cherchent à s'en autonomiser. Et le contexte de hausse des préoccupations environnementales leur donne des opportunités inédites en la matière. Ainsi, les agriculteurs rencontrés, faits corroborés par les statistiques, s'inscrivent de plus en plus dans des circuits de vente directe, tout en continuant à commercialiser une partie de leur production en circuit long. C'est moins, en effet, le passage intégral en circuit court que la multiplication des modalités de vente et donc des acheteurs qui semble le plus sécurisant et le plus rémunérateur pour les petits et moyens agriculteurs. Je me penche néanmoins ici uniquement sur plusieurs pratiques coopératives commerciales mises en œuvre par les agriculteurs dans le cadre de la vente directe, ces modes de commercialisation semblant plus propices au déploiement de stratégies collectives. Tous les agriculteurs impliqués dans cette transition vers des modes de commercialisation directe, ce qui implique généralement des transformations importantes de leur exploitation, donc production plus diversifiée mais avec de moindres volumes, recomposition du temps de travail entre activités productives et activités de vente, etc., soulignent que pour eux, la solution la plus intéressante sont les marchés et magasins de producteurs. En effet, ce type de formule collective leur permet de valoriser davantage leur production en éliminant les intermédiaires, mais aussi en limitant les pratiques de calibrage, tout en se partageant entre plusieurs producteurs la très grosse charge de travail qu'implique une grande diversification des produits proposés à la vente. Ainsi, c'est à une véritable division du travail productif entre plusieurs exploitations que permet ce type de structure commerciale collective. Mais c'est aussi le partage des risques de l'échec de certaines productions, risque d'autant plus élevé que le recours à la chimie est moins fréquent ou intense, qu'opèrent les producteurs associés. Enfin, ce type de formule permet une mutualisation des coûts, de l'achat et de l'entretien des bâtiments, des consommations d'énergie, du temps de travail consacré à la vente, etc. Fait intéressant, lors de mes entretiens, il a souvent été évoqué par les enquêtés que les formes plus individuelles de vente directe, comme la vente à la ferme, marché de plein vent, magasin de producteurs individuels et AMAP, si elles permettaient bien généralement une meilleure rémunération, avaient aussi tendance à démultiplier leur temps de travail, déjà très important. Aussi, certains agriculteurs rencontrés ont trouvé la parade et s'associent avec d'autres producteurs pour commercialiser leur production, détournant parfois les règles officielles de ces dispositifs. C'est le cas en AMAP, où le principe d'un agriculteur, une AMAP, est au fondement de ce type de groupement. Plusieurs maraîchers en AMAP rencontrés m'ont ainsi expliqué l'énorme pression que constitue le fait de devoir livrer chaque semaine une grande diversité de légumes. Cette grande diversité productive implique en effet elle-même souvent plus de matériel, des calendriers de production alourdis et complexifiés, ainsi qu'une surcharge globale de travail et l'impossibilité de souffler un peu entre deux livraisons. Pour faire face, les producteurs rencontrés font donc appel le plus souvent, de façon informelle, à plusieurs collègues complétant ponctuellement leur panier. Cet exemple est intéressant car il nous montre comment un système, ici les AMAP, dont l'objectif affiché est de préserver une agriculture paysanne, s'il permet bien de sécuriser les revenus, induit une forme d'individualisme, être proche de son petit producteur, que rejettent largement les petits et moyens agriculteurs qui s'associent de nouveau, encore une fois, plus ou moins officiellement. On retrouve alors en miniature les rapports sociaux de classe explicités précédemment. Les AMAPiens appartenant en majorité à la petite bourgeoisie nouvelle et à d'autres fractions de classe de la bourgeoisie souhaitent pour la plupart sincèrement aider les agriculteurs, en plus d'obtenir des denrées alimentaires de qualité, généralement labellisées biologiques et à un prix plus abordable que dans les magasins commercialisant ce type de production. Mais c'est au travers de leurs lunettes de classe qu'ils envisagent les modalités de ces rapports tissés avec les petits et moyens agriculteurs en défendant notamment des principes de fonctionnement antithétiques aux intérêts de ces producteurs qui l'ont, comme on l'a vu, très bien compris. Je pourrais multiplier ainsi les cas de coopération plus ou moins avouée entre ces producteurs dans le cadre de ventes directes. C'est le cas notamment, mais là aussi je vais être obligée de passer sur des pratiques d'achat-revente ou de dépôt-vente qui permet en fait à des agriculteurs qui ne disposent pas du bon emplacement, du réseau client ou encore des ressources capitaux pour monter un magasin producteur et bien d'écouler une partie de leur production. Je n'aborderai pas non plus, le format de la communication ne le permet malheureusement pas, d'entrer plus en détail sur les ambiguïtés et les contradictions que recouvrent aussi ces relations, les dynamiques compétitives entre ces agriculteurs n'ayant par ailleurs pas disparu avec l'avènement de la question écologique. Donc pour conclure cette présentation, je voudrais souligner que les petits et moyens agriculteurs que j'ai rencontrés, donc pour eux, l'adaptation aux enjeux environnementaux passe bien et parfois de manière très fructueuse par le développement d'un certain nombre de pratiques coopératives. Étudier ces pratiques et plus généralement le processus adaptatif de ce groupe professionnel à la nouvelle donne écologique permet, me semble-t-il, d'éclairer plus largement comment la coopération s'inscrit encore dans des rapports de classe dans une société plus que jamais marquée par des inégalités. La crise écologique, si elle rebat bien les cartes de nos conditions de travail et de vie, n'induit effectivement pas un aplanissement et une égalisation de ces conditions. Par ailleurs, étudier ces formes de coopération socialement situées, actuellement à l'œuvre dans les transformations de notre agriculture, me semble riche d'enseignements pour tous les acteurs sociaux souhaitant coopérer pour trouver des solutions aux problématiques environnementales, et notamment pour les scientifiques que nous sommes. En effet, cela nous donne à voir qu'il existe une pluralité de voies possibles dans la transition environnementale, sous-tendue par des rapports au monde parfois très éloignés de ce que l'espace scientifique, dans une certaine forme d'ethnocentrisme de classe, peut éventuellement percevoir comme légitime. Enfin, je pense que la conscience des petits et moyens agriculteurs de leur interdépendance structurelle peut être source d'inspiration. De même, la prise de distance salutaire qu'ils opèrent avec les injonctions individualistes concurrentielles auxquelles les enjoignent le complexe agro-industriel autant que les pouvoirs publics ou encore les consommateurs engagés est une belle leçon de résistance collective dont nous pourrions tirer de riches enseignements. Je tiens à dire que cette notion de résistance collective n'est pas de moi, mais de mes encadrantes de thèse. Merci à vous.
Alors, discuter la théorie du sac de pommes de terre de Marx en 20 minutes, c'est pas simple. Mais peut-être que les questions vont vous permettre justement de préciser des choses.
Merci beaucoup pour cette présentation. On voyait bien que aussi ces rapports de classe, enfin cette coopération, c'est aussi une réponse à des rapports sociaux et des rapports de force entre les différents, entre plutôt la petite bourgeoisie et les agriculteurs. Mais je me demandais du coup, par rapport aux néo-agriculteurs qui viennent s'installer, je pense à la montagne notamment par rapport aux loups, parce qu'on a ces néo-bergers ou néo-agriculteurs qui ont une vision de la nature qui est différente. Déjà, par rapport à l'enjeu environnemental, comment ils voient ça? Et puis, notamment, la coopération avec les autres agriculteurs, comment ça se passe? Et est-ce qu'ils arrivent à coopérer ou pas?
Merci pour cette question. Alors, c'est vraiment pas le cœur de mes enquêtés, donc c'est néo-ruraux, de même que les femmes sont absolument quasiment absentes de mon échantillon. mais effectivement, enfin, ce que j'ai pu constater, que j'ai trouvé assez intéressant sur cette question des rapports de classe, c'est que finalement, il y a une espèce de principe de réalité chez ces néo-ruraux qui, quand ils jouent véritablement le jeu, en fait, se retrouvent rapidement à adopter des positions de plus en plus proches de celles des petits et moyens agriculteurs qui sont issus du monde agricole, alors qu'idéologiquement, à la base, il y a de très grandes distances. Mais voilà, il y a un principe de prise en compte des contraintes matérielles, physiques. Ben voilà, la nature, elle n'est pas toujours gentille et qu'elle ne va pas nous donner généreusement parce que c'est nous et parce qu'on l'aime bien. Et en fait, du coup, il y a une espèce de socialisation à marche forcée que j'ai pu constater chez certains de ces néo-ruraux et qui, du coup, je trouve, re-questionne finalement ces classes qui ne sont pas du tout figées dans le marbre, et au contraire, puisqu'en fait, c'est un groupe qui, numériquement, s'est effondré. Donc, il y a une très grande pluralité des enfants d'agriculteurs qui sont partis aller alimenter les autres groupes sociaux. Et donc, voilà, c'est aussi intéressant d'observer ça avec ce groupe-là.
D'autres questions ?
Oui, merci Lucie. Je me demandais, vers la fin de la présentation, tu mentionnais des ambiguïtés et des contradictions dans ces rapports entre agriculteurs, dont tu as bien montré sont différents en fait. Est-ce que tu peux nous donner par exemple quelques exemples de ces contradictions justement ?
Alors c'est vrai qu'il y a, il y a des pratiques de coopération qui ne sont pas d'ailleurs énoncées comme telles. Enfin voilà, c'est juste on travaille ensemble et on ne va pas forcément conceptualiser les choses comme ça, sauf ceux qui sont un petit peu plus politisés. Mais en tout cas, dans la nouvelle génération, ça se retrouve presque moins. Mais pour ce qui est en fait des dynamiques compétitives entre les agriculteurs, c'est par exemple le cas de la spéculation foncière, c'est-à-dire que là, j'ai peut-être des fois un petit peu de mal à objectiver les positions, donc j'espère que dans la rédaction de la thèse, je vais réussir à trouver l'objectivité nécessaire pour aborder ces questions. Mais en tout cas, toutes les attaques vis-à-vis de l'agriculture ne sont pas extérieures à l'agriculture. Il y a aussi des dynamiques internes, finalement, qui plombent la reproduction du groupe, et notamment cette spéculation foncière, qui est un phénomène très ancien, et qui fait que, notamment dans les zones littorales, où il y a très peu de production agricole, où il y a très peu de foncier agricole, et le restant, en fait, il est capté par un certain nombre d'agriculteurs aussi, qui espèrent que ça va passer constructible, etc. Et donc là, c'est par exemple un exemple de « là, on est en concurrence ». C'est-à-dire que mon intérêt personnel de vendre un terrain à 1,5 million plutôt que 200 000, ça va rentrer directement en contradiction avec les intérêts des autres petits et moyens agriculteurs. Voilà, un exemple parmi d'autres.
Il nous reste encore un petit peu de temps. Il y a une question là.
Une question très simple. Il y a une montée des tensions entre les agriculteurs de manière générale et je pense notamment à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et l'arrivée de ces nouveaux agents des politiques environnementales. Et du coup, quelle est la position ? Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits ou est-ce qu'au contraire, il y a des changements de position par ces petits et moyens agriculteurs ? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières qui sont locales vis-à-vis de ces situations.
Ok. Moi, ce que j'ai pu voir, encore une fois, il y a une partie du terrain, mais il y a aussi beaucoup de littérature. Hein, j'ai pas tout découvert sur mon terrain, loin de là. mais en fait, c'est que il y a quand même une évolution globale de la position vis-à-vis des questions environnementales de l'ensemble en fait des agriculteurs, et notamment portée par les organisations professionnelles. Voilà, le discours, c'est plus on nous emmerde avec l'écologie, c'est pas vrai, on n'est pas pollueur, etc. Donc il y a une évolution. Après, il y a des tensions qui restent quand même très fortes, et notamment en local, entre divers acteurs protégeant l'environnement et les agriculteurs pris individuellement ou les organisations professionnelles qui les représentent. Et ça a été notamment, et ça je ne savais pas du tout, très présent dans les zones montagneuses, donc Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes, où il y a vraiment une espèce de... Il y a des groupuscules, en fait, un peu d'écologie radicale, Et notamment par rapport à cette question du loup, il y a voilà, des menaces de mort, vraiment une pression qui est exercée sur les agriculteurs individuellement et collectivement. Donc dans ces zones montagneuses, c'est le loup. Ailleurs, ça peut être autre chose. Quand il y a des traitements, c'est des insultes, c'est des rotations de militants qui viennent sur les exploitations pour harceler les agriculteurs. Enfin, j'ai été surprise, moi en tout cas, par la violence en fait des luttes que j'avais du mal à imaginer. Peut-être du fait, là pour le coup, moins des agriculteurs eux-mêmes que de la radicalisation de certains mouvements écologistes qui peuvent s'entendre justement dans un rapport de classe où finalement eux ils adoptent un autre point de vue, une espèce d'urgence vis-à-vis aussi de l'élevage, de la consommation de viande, etc. Pour l'instant, à titre. J'ai pas observé que là, collectivement, il y avait une réponse qui était apportée pour faire face à ça, mais en tout cas, beaucoup d'agriculteurs ont exprimé ce genre d'interaction très violente avec des militants.
C'est encore un tout petit peu de temps, la place pour une question.
Désolée, si vous n'avez pas d'autres questions. Je me demandais, puisque ton terrain il est situé localement, enfin, tu as quand même une limitation géographique, quel rapport tu fais entre les conditions environnementales locales et la manière dont les questions écologiques, etc., sont représentées et s'expriment chez ces agriculteurs. Je reprends ton exemple du foncier du littoral et je pense au cas, par exemple, des agriculteurs bretons qui ont été concernés par la question des algues vertes. En fait, ils se sont pris le poids de toutes les politiques agricoles qui remontaient bien avant eux sur le fait que là-bas, c'était les ports, etc., et que du coup, il y avait des énormes quantités d'intrants qui arrivaient dans le milieu, que du coup, ils étaient accusés de tuer des gens par le fait que les algues vertes étaient toxiques.
Ils ont tué.
Comment ?
Ils ont tué.
Eh bien, la question de savoir si c'est le système qui... Enfin, c'est très complexe, cette question. Mais en tout cas...
En nourrissant des consommateurs qui mangent, in fine, le produit final.
On voit bien comment le milieu environnemental s'insère dans cette question de... Et surtout, comment on dit qu'ils doivent transitionner, alors qu'il y a tous les autres copains à l'échelle nationale, peut-être ils ont moins cette pression sur leur tête, quoi. Est-ce qu'il y a des spécificités à la région PACA ? Comment ils se pensent en termes de classe par rapport à l'ensemble des agriculteurs ? Enfin, je ne sais pas si t'as...
Oui, alors effectivement, la région PACA est très particulière de par tout un tas de facteurs. On est une région écologique. On est à Marseille, on ne dirait pas. Mais il y a une grande partie du territoire qui est boisée, qui est protégée. Et on a des conditions, notamment pédoclimatiques, qui sont favorables, puisqu'il ne pleut pas beaucoup, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits, etc. On est par ailleurs, donc ça c'est plus pour les conditions écologiques, pour les conditions économiques, on est sur une population globale, bien sûr, avec de grandes disparités, ayant des ressources, des moyens, relativement éduqués, notamment sur le littoral. Donc c'est typiquement le profil de consommateurs qui sont prêts à investir dans leur alimentation, et pas que pour... la défense de conditions écologiques et de protection de l'environnement, mais aussi pour des raisons proprement sanitaires et personnelles, de défense de sa santé. Et donc, du coup, tout ça fait que finalement, l'environnement, ça prend plutôt bien, parce que il y a des conditions écologiques favorables, il y a aussi eu un moindre remembrement en PACA, donc c'est des plus petites parcelles, c'est des plus petites exploitations. Et tout ça fait avec en face une demande de consommateurs solvables pour des produits de qualité. Et donc tout ça fait qu'effectivement, il y a une dynamique qui est quand même très favorable vers une écologisation de l'agriculture en région, et qui est beaucoup moins le cas dans d'autres régions. Même si, quand on regarde les statistiques nationales, il y a quand même un mouvement d'ensemble. Et évidemment, il y a aussi... comment évolue la petite et moyenne agriculture versus la grande, l'agriculture de firme. Et là aussi, c'est des questions que j'ai moins travaillées, cette agriculture de firme, où il y a des évolutions parce qu'une adaptation réglementaire nécessaire. Mais là, au niveau de l'évolution des tendances, des indicateurs, c'est en tout cas moins flagrant, quoi. Donc oui, il y a une spécificité régionale, mais si je peux dire juste un dernier mot... qui pose la question aussi et ça pourrait rejoindre la question des Suds et Nords de demain, qui pose aussi la question, en fait, on est aussi écologique en PACA parce qu'on produit beaucoup moins qu'ailleurs. Donc en fait, du moment où on produit moins, c'est plus facile d'être écologique. Donc ça pose la question de l'externalisation de ces des pollutions, et notamment envers l'Italie, l'Espagne ou des pays du Sud, où là il y a des moindres contraintes écologiques et où en fait ça produit en masse encore, et notamment pour les Français qui ont peut-être moins les moyens de manger de manière qualitative.
Oui, on pourrait en parler longtemps. Hein. Et d'ailleurs, même pour conclure, si, puisque dans votre résumé, vous abordiez des choses qui sortaient un peu du paradigme du 18 Brumaire, puisque finalement, votre analyse, c'est un peu le paradigme du 18 Brumaire, vous insistiez sur la méthode aussi. C'est-à-dire, vous en arrivez là aussi, avec, dites-vous, l'abandon de la grille d'entretien, en tout cas, une certaine élasticité. Ça aussi, c'est des thèmes qui, je pense, très intéressants à aborder. Mais voilà, le temps nous est compté, hélas.